Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Aujourd'hui, au sommaire de notre émission, un documentaire en forme d'enquête, celle que mène une jeune femme d'origine juive sur son grand-père paternel, un grand-père vichiste, engagé dans l'Action française et fasciné par Maurras. Leïla Ferro, la réalisatrice de ce film qui va être projeté au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, a dû plonger dans cette histoire sombre de la collaboration pour trouver des réponses à ces questions et explorer les silences familiaux autant que l'amnésie française. Et cela avec d'autant plus de difficultés que l'histoire de ses grands-parents maternels est traversée par la Shoah. Mais comme souvent, du questionnement est née la parole, une parole qui finit par circuler entre les générations et retrace un récit familial qui éclaire la grande histoire. Alors pour commencer, Leïla Ferro, bonjour.
Bonjour.
On a envie de savoir, quand on regarde ce film, même si vous l'expliquez au début du film, je préfère que ce soit vous qui nous le racontiez, pourquoi vous avez eu envie soudain de faire un film sur ce grand-père que vous avez finalement connu assez longtemps ?
Alors, j'ai très peu vu mon grand-père dans ma vie, mais par contre, on avait une correspondance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le film. Et quand j'avais une vingtaine d'années et que je n'avais pas vu mon grand-père depuis à peu près 10 ans, j'ai dit à mon père, qui lui voyait régulièrement son père, enfin en gros une fois par an, je lui ai dit « écoute, cette fois-ci je t'accompagne, comme ça je viens ». Donc j'étais étudiante en histoire d'ailleurs à ce moment-là. Et j'avais eu plein de questions, mais bon, je voulais juste le voir et rétablir un peu un lien. Et mon grand-père n'a pas voulu en fait. Et c'est vrai que c'est resté pour moi quelque chose d'incompréhensible, il n'y a eu aucune réponse, voilà. Et les années sont passées, et puis mon grand-père est mort. Et au moment de son enterrement, il y avait une foule immense, vraiment, avec plein de gens qu'on ne connaissait pas, des gens très, très émus, très tristes. Et pour moi, il y a eu une évidence, quelque chose d'insupportable, où je me suis dit, bon, il y a plein de secrets, plein de choses dont on n'a jamais parlé. Mon père est né en 42, savait très peu de choses sur l'histoire de son père. Il y avait en même temps plein de bribes qui étaient passées. Et je me suis dit, il va falloir que je sache ce qui s'est passé. Je sais que mon grand-père est allé en prison, à la libération. Voilà, c'est important. Et là, petit à petit, j'ai commencé à chercher. Et très vite est venue aussi l'idée d'en faire un film. Voilà.
Et pourquoi justement en faire un film ? Pourquoi ne pas garder cette histoire en famille, finalement ?
Alors, pour moi, le biais, en fait, du film, le média du film, m'a permis déjà de mettre une certaine distance, quelque part, entre ma propre histoire et l'histoire plus générale, enfin, l'histoire. Et c'était vraiment une manière aussi, bizarrement, on se rend compte que quand on pose une caméra entre, par exemple, son père et soi, il y a des discussions, des choses qui se passent qui ne se passeraient pas dans la vie réelle, même si on est dans le documentaire. Et ça, je m'en suis rendu compte très vite parce que j'ai essayé, alors que j'avais peu d'expérience comme ça, je me suis dit, bon, j'essaye, quoi. Et donc, j'ai poursuivi et ça m'a vraiment aussi permis d'aller au bout de cette histoire, de faire toutes ces recherches, de rencontrer des gens que je ne pense que je n'aurais jamais rencontrés, d'avoir une audace, en fait, quelque part, que je n'aurais pas eue si ça avait été que sur ma propre histoire personnelle, même si c'est ça que je fais dans le film. Et donc, c'est principalement pour ça. Voilà.
Et donc là, vous venez de nous dire, Leïla Ferro, ce que vous saviez, quelques bribes de ce que vous saviez sur votre grand-père. Est-ce que vous pouvez nous le dire plus précisément, quelles étaient les informations avant de faire ce film que vous aviez, que votre père vous avait transmises, que vous aviez devinées, que l'histoire familiale avait laissé circuler ?
Alors, c'était en fait surtout lié au royalisme de mon grand-père, au fait qu'il était membre de l'Action française, qu'il avait été camelot du roi, ce qui, moi, me paraissait très fantaisiste. Et notamment, je recevais des lettres avec le timbre de la Marianne renversée. Donc, mon père nous disait « oui, c'est vraiment pour dire qu'il est contre la République ». Donc, bon, ça, c'était la première idée. Il y avait le fait qu'il était que royaliste, ça voulait dire plutôt extrême droite, droite extrême. Et puis, au fur et à mesure aussi, il y avait... mon père s'appelle Philippe. Et donc, il disait, Philippe Pétain. Et Philippe Pétain, c'était vraiment une figure. Voilà, donc après, au fur et à mesure, à l'école, tout ça, on se dit, ah bon, à Philippe Pétain. Et puis comme la guerre était extrêmement présente, plutôt du côté maternel, en fait, puisque mes grands-parents sont juifs de Pologne, Russie, et que ma grand-mère maternelle nous a très vite raconté beaucoup les histoires de guerre, et elle était en Pologne pendant la guerre, donc aussi, elle a été rescapée de Bergen-Belsen. Donc forcément, il y avait un rapport qui se faisait dans ma tête. Et donc je dis d'ailleurs à un moment dans le film que assez tôt, j'ai posé, même les seules fois où j'ai vu mon grand-père, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faisait ? Enfin, pour moi, une personne de cet âge-là, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faisait. Pourquoi. Donc voilà, mais j'avais pas tellement plus d'éléments sur concrètement ce qu'il avait fait. Et plus tard, je pense que c'est venu par ma mère... On savait qu'il avait été en prison, voilà. Mais sinon, c'était le blackout. Et surtout, la chose qui était très compliquée, dont on ne parlait pas, c'était un éventuel antisémitisme.
Oui, alors ça, c'est très marquant. Dans le film, il y a une scène où vous êtes avec votre père, vous marchez ensemble, vous discutez, et puis vous lui dites, mais quand même, je ne pouvais imaginer que le pire, puisque dans toute la famille, dans toute l'histoire de notre famille, on parlait de la guerre, on parlait de la Shoah, on parlait donc beaucoup de l'antisémitisme, et il y avait donc ce grand-père qui était proche de Pétain, de l'Action française, royaliste, et on ne parlait jamais d'antisémitisme autour de sa personne. Et ça, c'est vrai que c'est, comme souvent dans les histoires de famille, les secrets de famille, la chose la plus évidente et soigneusement évitée par tout le monde.
Oui, c'était très compliqué, et moi-même, en faisant le film, j'ai été à plusieurs reprises surprise par la difficulté même que j'avais à prononcer ces mots, à les entendre, et même presque une honte très forte, en fait, à la fois de peut-être lui reprocher ça, de penser que c'était possible, et puis un malaise, en fait, que je sentais dans la famille. Voilà, on parlait, mon père disait que son père pouvait être raciste, qu'ils avaient eu des discussions, c'était plus lié sur le présent. Et je me disais, bon, racisme, antisémitisme, les deux se rejoignent. Mais c'est vrai, oui, il y avait ce nœud comme ça.
Alors donc pour faire ce film, Leïla Ferrou, vous avez commencé à faire des recherches, effectivement, donc à la fois à rencontrer des résistants, à rencontrer des personnes qui étaient plus des collaborateurs, qui étaient des vichysois, et essayer de rencontrer des gens qui l'avaient connu, ça, donc, ça semble impossible, visiblement. Et donc vous, finalement, vous avez réussi à rassembler pas mal d'informations. Qu'est-ce que finalement vous savez précisément aujourd'hui sur ce grand-père ?
Alors, donc précisément, je sais que mon grand-père s'est engagé quand il est revenu de... Donc il était soldat, enfin en 40, quand il est revenu, il s'est engagé à la Légion française des combattants, et que assez vite, il a fait une carrière en fait à l'intérieur de la Légion française des combattants, en s'engageant dans le service d'ordre légionnaire, donc qui est ce qui précède la milice, dans son département du Jura, où il devient à un moment sous-chef, puis chef de la propagande, puis du SOL pendant un temps.
Donc le service d'ordre de la Légion, le SOL.
Exactement. Ce qui est plus flou, finalement, c'est concrètement... Bon, on sait donc qu'il s'occupe de propagande. J'ai beaucoup lu, beaucoup cherché dans les journaux. On sait ce que ça représente. Après, sur les actions concrètes, donc le SOL, c'est jusqu'en fin 42, fin janvier 43, où le moment où la milice est créée. C'est-à-dire que le moment où la milice va tomber vraiment dans les exactions sanglantes, ou je ne sais pas, de dénonciation, tout ça, lui ne va pas rentrer dans la milice, il va continuer dans la propagande de la Légion. Et là, évidemment, il y a un mystère qui restera toujours. Exactement quelles sont les raisons, je n'en sais rien. Enfin, il y a une légende familiale qui venait de la sœur de mon grand-père qui disait que leur propre père, qui était aussi Action française, lui avait dit « Maintenant, Henri, tu arrêtes les conneries, t'as une famille, attention, quoi. » Mais on ne sait pas. Peut-être qu'il trouvait que ça allait trop loin. Il était, comme beaucoup de gens d'extrême droite et d'Action française... il y avait un fort sentiment anti-allemand, donc peut-être qu'il a trouvé que ça allait trop loin. Voilà, ça, je ne saurais pas exactement. ce que m'ont dit les résistants, c'est que s'ils n'avaient pas eu une peine plus lourde aussi au moment de l'épuration, c'est que probablement ils ne faisaient pas partie des gens qui dénonçaient ou qui étaient considérés comme ni des résistants, ni des juifs. Voilà. Et c'est aussi quelque chose qu'il a, selon mon père, essayé de lui faire passer en lui disant, une fois où ils étaient tous les deux, alors qu'il ne parlait pas du tout de ça, il lui avait dit, je ne sais pas ce que dit mon père, mais quelque chose comme...
Je n'ai pas collaboré.
Oui, je n'ai pas collaboré. Bravo. Donc, voilà.
Et effectivement, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'on approche à travers vraiment votre histoire personnelle, mais aussi à travers les témoignages de ceux que vous rencontrez, ce qu'était le quotidien dans une petite ville de la collaboration des vichistes, du service d'ordre de la Légion, donc quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Si on ne s'intéresse pas à la ministre, tout le monde en a entendu parler, mais c'est vrai que ce service d'ordre de la Légion qui avait une grande importance de ce qu'était l'Action française, de effectivement cette question du sentiment anti-allemand qui a pu amener d'ailleurs certains membres de l'Action française à résister. Vous montrez bien aussi que les voies étaient complexes. Et vous avez eu l'impression comme ça aussi, vous, de plonger dans ce quotidien de la collaboration
Par touche, oui, en voulant rencontrer aussi ces personnes qui étaient donc soit dans la Légion, SOL, d'autres qui étaient miliciens, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un écart de pensée quand même énorme et que ces gens obéissaient à un ordre, que l'esprit de la Révolution nationale, tout ça était vraiment quelque chose d'extrêmement important pour eux, qui était finalement peut-être assez difficile à comprendre pour nous aussi aujourd'hui. Notamment cette suivre un chef, cette... voilà, après... oui, aussi, même en rencontrant des enfants, d'autres enfants de miliciens, des enfants de résistants, des résistants, ce qui m'a frappée, c'est que voilà, les choses, elles n'étaient pas tranchées. Et on pouvait aussi bien être... c'est-à-dire que pour moi, évidemment, tout ce qui était lié à l'antisémitisme, aux juifs traqués, était extrêmement important. Je me rendais compte du peu d'importance qu'il y avait pour beaucoup de ces gens, que ce soit dans la résistance... ou dans la collaboration, et que ce n'était pas effectivement forcément le point important pour eux. Et voilà, donc ça m'a évidemment frappée, et j'ai trouvé, même si ça a été difficile aussi de me rendre compte que les gens qui avaient suivi le même parcours que mon grand-père, la plupart du temps ne voulaient pas parler parce que... je ne sais pas, soit ils ont honte, soit aussi ils ont peur d'être incompris. Ils savent qu'ils sont dans le camp des perdants et que de toute façon, je ne suis pas sûre qu'ils reviennent du tout sur leurs idées, mais voilà, ils veulent plus en parler.
Alors il y a quelque chose qui est très émouvant dans ce documentaire, c'est la manière dont vous tournez autour de... est-ce qu'il ne voulait pas me voir parce que j'étais juive ? Est-ce qu'il ne voulait pas me voir à cause de mes origines ? Comment est-ce qu'il percevait ma mère ? Et on sent bien autour des conversations avec votre mère, avec votre père, et puis de la manière dont vous avez de relire ces lettres où il vous dit qu'il vous aime, où il vous dit qu'il vous serre dans ses bras, et puis en même temps, vous lisez à côté ces textes du serviteur de la Légion qui sont terriblement antisémites, violemment antisémites, comme les textes pouvaient l'être à l'époque. Et on voit bien là que c'est cette question finalement qui vous obsède. Qu'est-ce qui rejetait chez moi ? Est-ce que c'est ça qui rejetait chez moi ? Et il y a cette scène incroyable où vous discutez avec une religieuse que lui connaissait bien. Alors je vais vous laisser raconter, où effectivement on sent que le non-dit est là et que la question finalement centrale est là.
Oui, c'était une question centrale que je ne m'étais pas formulée de manière aussi claire hein, d'ailleurs. En faisant le film, mais qui revenait, qui, autour de les frères et sœurs de mon père, tout le monde dans la famille, c'était vraiment la chose repoussoir, et on me disait toujours, mais non, il aimait beaucoup ta mère, enfin bon. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu dans les discussions avec ma mère, avec... il y avait même un non-dit, c'est-à-dire que ma mère m'a dit, quand je voulais interviewer ma grand-mère maternelle, et ma mère m'a dit, non, non, tu vas tuer ta grand-mère. Surtout, ne lui en parle jamais, ma grand-mère ne savait rien sur le passé de, ou même le, l'engagement de mon grand-père paternel. Et alors, c'est vrai qu'il y avait cette religieuse que je voulais rencontrer parce que c'était une femme qui était, que je savais très proche de mon grand-père, qui était extrêmement pratiquant et croyant, et qui m'a extrêmement bien reçue. Et qui, donc avec qui j'engage une discussion. Et on tournait autour de plein de questions. Et c'est vrai qu'à un moment, d'elle-même, c'est elle qui me pose la question sans me poser la question. Enfin, ce qui était extrêmement troublant pour moi, parce que évidemment, c'était la question qui m'obsédait. Et d'un coup, elle me demande, mais votre mère, elle vient de... Et puis, elle n'ose pas prononcer où elle est juive, elle est de quelle origine, enfin... Je ne savais plus, et c'est vrai que j'ai un trouble terrible. Je me disais, mais enfin, est-ce que c'est ça qu'elle a dans la tête ou pas? Et puis finalement, je crois que c'est même moi qui... Et au lieu de dire, d'ailleurs, elle est juive, on voit ma gêne, je dis, elle est d'origine juive. Bon, alors c'est vrai que... Alors que bon, bah, finalement, elle est juive. Voilà, et je pense que... Enfin voilà, c'était très...
Et elle dit à ce moment-là, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc... Et elle, ça ne... Enfin, je pense que ça ne la dérangeait pas, mais elle a quand même un malaise avec ça. Et puis finalement, ben, on parle d'autre chose et...
Oui, puis elle en vient quand même à dire à un moment qu'effectivement, ça le gênait, votre grand-père. Mmh. Et puis qu'elle dit cette chose terrible. Il aurait préféré qu'il n'y ait pas d'enfant. Mmh. Et c'est finalement la réponse, elle
oui.
est là.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'elle voilà, elle le sait, elle le pense. Voilà, ce qui a posé beaucoup de problèmes à mes oncles et tantes qui, je pense, ne veulent pas accepter ça. Bon, voilà.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit effectivement comment des questions, finalement, ce n'est pas les questions que vous formuliez au départ, finalement, c'est ces questions-là qui surgissent, qui s'imposent dans le film. Et on voit bien, finalement, que c'est des questions que votre mère se posait depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'elle, peut-être, c'est l'occasion pour elle de le formuler, mais elle dit, mais quand même, qu'aucun des frères et sœurs se soit jamais penché sur la question, que, enfin, oui, il était antisémite. Et on sent qu'elle, les bras lui tombent, finalement, presque, de voir... à quel point ça a été occulté et à quel point pour elle c'est aussi un soulagement ce que vous faites vous.
Oui, alors évidemment je me suis demandé dans quelle mesure j'étais en partie le porte-parole de toutes ces questions non dites pendant des années. Je pense aussi que à partir du moment où j'ai dit je vais faire une recherche, je vais faire un film, la parole s'est libérée et ma mère a pu dire ça, ce qui sont des choses que je n'avais jamais entendues avant, qu'elle n'avait jamais formulées et dites aussi clairement. Quelque part, quand elle dit ça, elle le dit au moment où je suis en train de le faire. Mais oui, il y a eu un moment hein, où mon père avait essayé, je pense, poussé par ma mère, et même, voilà, lui, évidemment, de poser quelques questions à son père. Et,
on sent que la peur était trop grande pour lui.
Oui, ça devait être très compliqué. Il avait beaucoup de mal à parler à son père. Enfin, voilà, tout simplement.
Et puis la peur de découvrir, parce qu'on sent quand vous lui montrez, il y a cette scène aussi très émouvante, où vous lui montrez dans un porte-document tout ce que vous avez trouvé, et on sent qu'il a peur du document suivant, de celui qui va suivre, de qu'est-ce que ça pourrait contenir. Et finalement, on sent presque un apaisement après cette recherche.
Tout à fait, oui. Alors que je ne l'ai pas pris au piège, hein, je lui avais dit, t'inquiète pas, je ne vais pas te révéler des choses... Enfin, il me semblait... Et c'est lui d'ailleurs, parce que je lui avais dit, est-ce que tu veux que je te montre les choses avant, et puis ensuite qu'on tourne, parce que j'avais pas envie de faire du sensationnel. Et il m'a dit, non, je veux voir maintenant, je te fais confiance quelque part, c'était sous-entendu. Et d'ailleurs, il y a une scène qui n'est pas dans le film, mais lui m'en reparle toujours, où je lui montre un document qui dit, membre du SOL n'étant pas rentré dans la milice. Et où il y a le nom de mon grand-père, et c'est vrai, bon, la scène finalement n'est pas restée, pour plein de raisons. Et mon père, on soupire comme si... Alors qu'on avait déjà eu toutes ces discussions, il le savait, je lui avais dit, mais le fait de le voir écrit noir sur blanc, c'était pour lui... bon, mon père n'a pas... voilà, il n'a pas commis les pires exactions, n'a pas... Bien sûr que c'est une question qui était très présente, je pense, pour lui.
Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est une scène du début du film où on vous voit avec votre sœur. Vous êtes assise dans un escalier, vous parlez de ce grand-père, de ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. C'est au début du film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment à quel point on peut avoir deux points de vue différents, deux préoccupations différentes, et à quel point finalement votre sœur, on peut dire, ça ne l'intéresse pas. Enfin, je veux dire, pour elle, c'est un cas qui est réglé. Bon, bah voilà, oui, bah, il était plutôt du mauvais côté. Et puis, est-ce qu'il m'a aimé? Elle s'en fiche. Enfin, et c'est vrai qu'on, c'est assez intéressant de voir comme au sein d'une même famille, vous, vous êtes taraudés par cette question de l'amour, du rejet, de l'acceptation, de qu'est-ce qu'il pensait de nous. Et elle, pour elle, c'est réglé depuis longtemps.
Ouais, souvent, dans une famille, j'ai l'impression qu'on a chacun à sa place, presque. C'était un peu le rôle qu'on endosse. Ma sœur m'a aussi dit à un moment, mais de toute façon, je savais que voilà, tu t'en occuperais, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que je pense à la moins, évidemment, elle le dit d'ailleurs, hein, beaucoup moins. Elle dit, voilà, j'ai fait une croix, et puis voilà, pour moi, c'était bah, du coup, ce grand-père, il n'y a rien à en récupérer. Voilà, alors je pense que moi, j'étais, voilà, j'avais l'ambivalence de mon père, je sentais bien que lui aimait son père, et voilà, j'avais besoin de savoir, de comprendre, effectivement. Et je pense qu'il y a ça dans toutes les familles.
Oui, c'est vrai, on voit bien que finalement, c'est aussi un film sur la place, sur le rôle de chacun. Et il y a aussi, je trouve, quelque chose qui est très important dans ce film, c'est donc ce dernier entretien avec un historien, François Marcot, qui vient expliquer qu'il faut garder en tête que nous, on a la fin de l'histoire. C'est-à-dire que nous, on lit cette période de la collaboration, cette période de la guerre en France, à la lumière de la Shoah, à la lumière de ce que le nazisme a produit. Et donc, lui, il explique bien que c'est précisément de savoir la fin de l'histoire qui nous empêche de comprendre les gens à l'époque. Et on sent qu'il essaie vraiment de vous faire passer ça, de vous transmettre ça pour que vous ne vous fourvoyez pas, finalement.
Oui, ça a été une rencontre en fait très précieuse. Donc lui est historien, puis spécialiste en Franche-Comté, enfin de la résistance plutôt. C'est vrai qu'il connaît très très bien, puis il connaissait tous les personnages, enfin voilà. Donc en dehors effectivement des choses historiques précises auxquelles il a pu m'aider, enfin voilà, me donner des précisions, c'est vrai qu'il permet vraiment une réflexion en fait. Sur l'histoire et la place, effectivement, c'est extrêmement important de rappeler que il avait beau être dans le SOL, que même les gens de la milice ils savaient qu'on faisait pas du, enfin, ils savaient pas exactement ce qui arrivait aux Juifs, et puis on ne savait pas, voilà, il parle effectivement de la mentalité de l'époque aussi beaucoup. Et ça a été, oui, une vraie rencontre humaine et extrêmement émouvante, en fait, d'ailleurs. Parce qu'on pensait, un historien, ça va être froid. Et non, il y a eu une vraie... je pense qu'il a vraiment cherché à... Enfin, moi et lui, on a cherché à comprendre et à se mettre en perspective de l'historien comprenant l'histoire individuelle. Et non, ça a été passionnant, et vraiment...
Alors, merci beaucoup, Legla Ferro. Alors, je rappelle que votre film donc, sera projeté le 7 février à 18h au Musée d'art et d'histoire du judaïsme dans le cadre d'un cycle consacré à la mémoire familiale, donc entre le 6 et le 8 février, et qu'on peut peut-être le commander en DVD.
Oui, on peut le trouver en DVD sur le site de la production qui s'appelle Bixfilm.
Merci beaucoup. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.